Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis. Il est agréable de vous rencontrer de nouveau dans l'émission quotidienne en français de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Nous souhaitons que vous restiez toujours en bonne santé et toujours le temps d'écouter nos programmes. Pour ce soir, l'émission sera commencée par le journal, suivi de commentaires, l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point. Vous pouvez également écouter notre programme culturel, c'est le magazine culturel, et apprendre l'indonésien. Avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons présenter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter La Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal. Et on commence avec les titres. Le ministre indonésien des Transports a invité les entrepreneurs indiens à investir dans le domaine maritime. 10 membres équipage de l'Indonésie qui ont été pris en otage par le groupe armé dans la région de mer des Philippines pourraient être réussis grâce à la diplomatie. L'Indonésie et le Japon renforcent la coopération de l'industrie sidérurgique. La culture indonésienne est promue à Dakar. Ridwan Kamil a reçu le prix de l'environnement. 45 pays assisteront à la réunion des musulmans modérés à Jakarta. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. L'ambassade de l'Inde à Jakarta a organisé un forum d'affaires assisté par les hommes d'affaires de l'Inde et le ministre indonésien des Transports, M. Ignatius Jonan. Le ministre Jonan, comme envoyé spécial du président chargé de la coopération entre l'Indonésie et l'Inde, dans une session interactive du Forum des affaires de l'Inde tenu à Jakarta récemment, a invité les hommes d'affaires indiens à investir dans le domaine maritime dans ce pays, surtout dans la construction du port. Ceci est cohérent avec le programme de Nawacita du gouvernement qui vise à relier et à construire uniformément l'Indonésie. Jonan a déclaré que les investisseurs étrangers pouvaient avoir des actions de l'actionnariat du port jusqu'à 49%.
Seaport can be owned by foreigner for up to 49%.
Le port de mer peut être propre par l'étranger jusqu'à 49%. Donc, vous devez trouver le partenaire indonésien qui souhaite avoir entreprise conjointe avec vous jusqu'à 51%. Nous ne limitons pas l'origine de l'investisseur. Vous pouvez investir dans le domaine du port ou vous pouvez vendre la technologie comme par exemple. Le ministre Jonan a expliqué qu'Alimantan, Sulawesi et Papouasie avaient une formidable opportunité d'investir. Il ne conseille pas les investisseurs étrangers à investir dans la construction de chemins de fer, car elle nécessite des grands fonds. Il a expliqué que l'Indonésie était un très bon pays à investir parce qu'elle a un climat politique et sécuritaire favorable. Le forum a été ouvert par l'ambassadeur de l'Inde à l'Indonésie, Ningcha Lufum Muka Padaya. Dans la même occasion, l'ambassadeur espère que ce forum peut accroître les relations économiques et commerciales entre les deux pays. La ministre des Affaires étrangères, Mme Retta Marsudi, a déclaré que la libération de 10 membres d'équipage de l'Indonésie qui ont été pris en otage par les groupes armés dans la région de la mer des Philippines pourrait être réussie grâce à la diplomatie. Cela a été déclaré par Mme Retta Marsudi au palais présidentiel à Bogor, Java West, le dimanche. Le président Joko Widodo a exprimé sa gratitude au gouvernement philippin pour la libération. Selon Mme Retta Marsudi, le gouvernement a ouvert toutes les options et les réseaux informels, y compris les réseaux formels pour libérer 10 citoyens indonésiens qui ont été pris en otage. Cela est dans un seul but, à savoir la sécurité des Indonésiens qui étaient en captivité des groupes armés. La coopération de l'industrie et de l'investissement d'acier entre l'Indonésie et le Japon continue d'être renforcée. L'un est fait par l'intermédiaire du 62e Forum du dialogue d'acier indonésien-Japon 2016 tenu à Tokyo, le Japon. Il a été déclaré par le ministre indonésien de l'Industrie, M. Saleh Husin, à travers un communiqué de presse cité par Antara le dimanche. Il a affirmé que le Forum du dialogue d'acier Indonésie-Japon était un forum de consultation entre l'Association indonésienne de l'industrie sidérurgique, accompagnée par le ministère indonésien de l'industrie et l'Association japonaise de l'industrie sidérurgique, accompagnée par le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie du Japon. Le gouvernement indonésien a déclaré le ministre Saleh a insisté plusieurs fois le Japon et d'autres pays à être plus actifs pour renforcer la structure industrielle dans le pays. Selon lui, cette réunion annuelle est faite par le gouvernement indonésien à travers le ministère de l'Industrie et le gouvernement du Japon par l'intermédiaire du ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie. Le premier dialogue a eu lieu en 2011 à Jakarta. La délégation indonésienne à ce forum a été dirigée par le directeur de l'industrie du métal, du directorat général de métal, machines, d'équipement de transport et électronique du ministère de l'Industrie, M. Budi Irmawan, tandis que la délégation japonaise a été dirigée par le directeur de l'industrie sidérurgique du ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie du Japon, Takanari Yamashita. Vous écoutez le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'ambassade d'Indonésie à Dakar a affiché une variété de produits culturels et a promu les destinations touristiques locales de l'Indonésie à l'événement du mois culturel mondial à Dakar au Sénégal. Lors d'un événement organisé par l'École internationale de Dakar, l'ambassade d'Indonésie à Dakar a présenté les produits d'artisanat comme le tissage, le batik, distribuer des brochures sur le voyage et le tourisme, montre des vidéos indonésiens et sert des plats indonésiens typiques tels que le riz frit, saté et la glace au lait de coco. À cet événement, le pavillon indonésien a présenté le jeu de gamelan et a donné l'occasion aux visiteurs de jouer le gamelan. En outre, les citoyens indonésiens qui vivent à Dakar portent des costumes traditionnels et suivent la parade des vêtements traditionnels. L'ambassadeur d'Indonésie à Dakar, M. Mansur Pangeran, a déclaré à Dakar que le mois culturel mondial qui a été assisté par des milliers de visiteurs était un lieu d'exposition et de promotion culturelle à la communauté du Sénégal et expatriés à Dakar. L'ambassade d'Indonésie à Dakar, qui ont suivi l'événement pour 4 fois consécutives depuis 2013, a été élu le meilleur stand préféré et espère d'attirer les citoyens du Sénégal et d'autres ressortissants étrangers à venir en Indonésie par l'intermédiaire de cet événement. Le maire de Bandung, Java West, M. Ridwan Kamil, a reçu le prix en tant que chef de la zone environnementale de PT Pertamina. La vision et la mission continueront à appliquer pour que Bandung soit verte, c'est ce qu'a déclaré par Ridwan Kamil après avoir reçu le prix Bandung Lesamdi, PT Pertamina en tant que la Compagnie Nationale d'Énergie est constamment engagée à mener ses activités en synergie avec l'environnement, telles que l'innovation des produits de carburant plus respectueux de l'environnement et la réalisation de programmes de corporate social responsibility et le développement de l'environnement. Selon Pertamina, Ridwan Kamil possède une vision et la consistance dans la campagne de l'environnement, ainsi que jouer le rôle actif dans la diffusion des activités environnementales. Auparavant, il a soutenu un programme de PT Pertamina dans la région de l'ouest de Java, à savoir Pertamax Bersih Bersih, qui est toujours fait à Bandung. Au moins 45 pays assisteront au sommet international du leader islamique modéré, ou ISOMIL, qui aura lieu à Jakarta le 9 au 11 mai 2016. Cela a été déclaré par l'initiateur de ISOMIL, le vice-président du Nahdlatul Ulama, M. Maksum Mahfouz, à Jakarta samedi. ISOMIL est la suite du sommet extraordinaire de l'Organisation de coopération islamique ou OKI à Jakarta récemment. Selon Maksum Mahfouz, OKI est le chef d'État ou le chef de gouvernement. Cependant, ISOMIL est l'organisation des dirigeants ou les dirigeants islamiques modérés. ISOMIL sera ouverte par le président Joko Widodo à Jakarta Convention Center le lundi 9 mai et fermée par le vice-président Yusuf Kalla au même endroit le lendemain. Chers amis, c'était le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Vous écoutez la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, nous présentons maintenant le commentaire intitulé La journée de l'éducation nationale et l'avenir de l'éducation d'Indonésie. Aujourd'hui, le 2 mai 2016, l'Indonésie célébrait la journée nationale de l'éducation qui coïncide avec l'anniversaire de Raden Mas Suhardi Suryoningrat, ou mieux connu comme Ki Hajar Dewantara. Il est né à Yogyakarta le 2 mai 1889 et mort à Yogyakarta le 26 avril 1959. Il est le père de l'éducation nationale en Indonésie. Ki Hajar Dewantara connu pour avoir osé d'opposer au gouvernement politique de l'éducation néerlandais à ce moment-là, ce qui ne permet aux enfants nés aux Pays-Bas ou les riches qui peuvent obtenir l'éducation. Sa critique contre la politique du gouvernement colonial a lui fait être exilé aux Pays-Bas. Et ensuite, il a fondé l'établissement d'enseignement appelé Taman Siswa après le retour à l'Indonésie. Il a été nommé ministre de l'Éducation, l'Enseignement et de la Culture indonésien dans le premier cabinet de la République d'Indonésie. L'état actuel de l'éducation indonésienne est différent avec la condition dans la période coloniale néerlandaise. À cette ère, la possibilité d'apprentissage est encore très limitée. Seulement ceux qui viennent de certaines familles qui peuvent obtenir une éducation avec le niveau de l'éducation limité. À l'ère de l'indépendance, l'état de l'éducation est beaucoup mieux, même avec une facilité simple. Les possibilités d'apprentissage sont ouvertes à tout le monde, mais en raison du coût, l'accès à l'éducation au niveau plus élevé est encore limité à certains milieux. L'éducation est importante pour tout le monde à devenir un meilleur humain. Il était une préoccupation du gouvernement depuis l'époque du président Sukarno à l'époque du président Joko Widodo. Depuis 1984, le ministre de l'Éducation, Nugroho Notosusanto, a fixé l'enseignement obligatoire de 9 ans. Mais à cette époque-là, l'éducation ne peut être appréciée par tous les enfants de l'Indonésie. Parce que l'accès économique communautaire indonésien ne suffit pas pour avoir l'éducation complètement. En fait, pour l'Indonésie, l'éducation est l'engagement entre le gouvernement et le public, tel que stipulé dans la Constitution 1945 que le but de l'État est la vie intellectuelle de la nation. Dans un discours pour commémorer la Journée nationale de l'éducation 2016, le ministre de l'Éducation et de la Culture, M. Anis Baswedan, a déclaré que la Journée nationale de l'éducation était célébrée pour la Journée de la conscience sur l'importance des qualités humaines. L'Indonésie sera la nation étant respectée par le monde et réussie dans une variété de la concurrence à l'ère mondiale, si ce pays possède déjà en bonne qualité. En effet, les installations éducatives qui sont limitées n'entravent pas l'Indonésie d'avoir un homme de haute qualité. Beaucoup d'enfants des régions éloignées avec des moyens limités et des infrastructures sont capables d'attendre une meilleure performance que les enfants qui vivent dans les zones urbaines avec des équipements de luxe. Tout dépend de l'individu, la famille et le gouvernement. Ils ont besoin de se battre et le soutien de divers partis afin d'atteindre l'éducation nationale de qualité au milieu de la concurrence intense et des progrès technologiques rapides, ce qui pourrait être positif et négatif. Bonne fête nationale de l'éducation. Espérons que l'éducation en Indonésie va aller mieux et avancer vers la personne plus qualifiée. C'était le commentaire de la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 2 mai 1889, l'anniversaire de Ki Hajar Dewantara, célébré comme la Journée nationale de l'éducation. La Journée nationale de l'éducation est synonyme de la figure du père de l'éducation nationale, à savoir Raden Mas Suwardi Suryoningrat, ou mieux connu comme Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara connu pour avoir osé opposer au gouvernement politique de l'éducation néerlandais à ce moment-là, ce qui ne permet aux enfants nés aux Pays-Bas ou les riches qui peuvent obtenir un banc d'éducation. Sa critique contre la politique du gouvernement colonial a lui fait être exilé aux Pays-Bas. Et ensuite, il a fondé un établissement d'enseignement appelé Taman Siswa après le retour à l'Indonésie. Il a été nommé ministre de l'Éducation, l'Enseignement et de la Culture indonésien dans le premier cabinet de la République d'Indonésie. Pour ses services dans le domaine de l'éducation, il a obtenu le titre de père de l'éducation d'Indonésie. Sur la base du décret présidentiel numéro 305 de 1959, du 28 novembre 1959, l'anniversaire de Ki Hajar Dewantara, qui est daté du 2 mai, désigné comme la Journée nationale de l'éducation. Le 2 mai 1941, le début de la guerre irako-britannique. La principale raison de la guerre entre l'Irak et le Royaume-Uni est la domination britannique aux champs de pétrole appartenant à l'Irak et l'interférence britannique dans les affaires intérieures de l'Irak. L'occupation britannique en Irak a été commencée à la fin de la Première Guerre mondiale qui provoque la défaite à l'Empire ottoman jusqu'à son territoire. L'Angleterre alors soulevait Émir Faisal, le fils de Hussein, le gouverneur de la Mecque, en tant que roi de l'Irak. Cependant, peu à peu, les partis politiques en Irak commencent à se lever et essayer d'attendre l'indépendance de l'Irak. Rachid Ali Gilani, l'un des combattants de la liberté irakienne, a mené le combat contre les Britanniques à compter sur le soutien de l'Allemagne. Un combattant de la liberté irakienne a dirigé la lutte contre les Britanniques et espérant le soutien de l'Allemagne. Mais l'aide de l'Allemagne n'est jamais arrivée, de sorte que les combattants irakiens vaincus et la Grande-Bretagne à nouveau occupés par l'Irak. Cependant, Rachid Ali a fui à l'étranger. Le Le 2 mai 1964, Chut Nhat Dinh désigné comme l'héros national. Chut Nhat Dinh a lutté contre les Néerlandais pendant la guerre d'Aceh avec Tengku Umar, qui est aussi son mari. Tengku Umar est mort quand il a attaqué Meulaboh le 11 février 1899, de sorte que Chut Nhat Dinh a lutté seul à l'intérieur de Meulaboh avec ses troupes. Chut Nhat Dinh était déjà vieil et malade. Ses troupes ont été appelées Pang Laut à rapporter son existence. Et la finalement été arrêté et amené à Banda Aceh. Là, il a été traité et guéri. Sa présence ajoute l'esprit du peuple d'Aceh. Chut Nhat Dinh continue à raviver l'esprit des combattants d'Aceh qui n'ont pas été capturés. Par conséquent, Chut Nhat Dinh est isolé à Sumedang, Java West, jusqu'à sa mort le 6 novembre 1908 et a été enterré à Montagne Puyuh, Sumedang. Chut Nhat Dinh est désigné comme une héros national de l'Indonésie le 2 mai 1964, basé sur le décret présidentiel numéro 106 de 1964. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Sixième antenne pour la boucle suivante, voici donc la mise au point et pour le titre. L'Indonésie a proposé l'autonomisation des PME à travers la base de la culture et de la créativité. Certains États membres regroupés dans la coopération économique d'Asie-Pacifique ou APEC, comme l'Indonésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Pérou, le Vietnam et d'autres pays, sont des pays qui sont très riches en patrimoine culturel. Donc, afin de développer l'autonomisation des affaires à petites et moyennes entreprises ou PME dans la région de l'APEC, l'Indonésie a proposé aux pays membres de l'APEC pour développer les PME basées sur la culture et la créativité. C'est ce qu'a déclaré Melia Disembiri, chef de la délégation de l'Indonésie à la 42e réunion du groupe de travail des PME de l'APEC tenue à Ho Chi Minh au Vietnam les 27 et 28 avril 2016, comme rapporté Compass.com. Meliadi a affirmé que le patrimoine culturel à travers l'industrie créative devrait devenir une source de compétitivité pour les PME, en particulier les membres économiques comme l'Indonésie face à l'ouverture de l'APEC qui entrera en vigueur pleinement en 2020. Meliadi, qui est également l'agent chargé de la supervision du ministère des coopératives et des PME, a déclaré: les éléments de la culture et de la créativité comme source de compétitivité pour les PME est destiné aux PME de la plupart des membres économiques de l'APEC qui se développent, peuvent équilibrer le progrès des PME de la partie des membres de l'APEC qui ont été avancés basés sur la technologie en général. Meliadi a également déclaré: dans la réalisation du développement inclusif et durable pour les PME et d'assurer la préparation des PME à faire face aux défis du 21e siècle, il y avait 4 priorités dans les plans de développement, à savoir le développement de l'entrepreneuriat, l'innovation et le développement des PME sur la base d'une économie numérique. La deuxième, le financement et le développement des capacités des PME. La troisième, le développement de l'environnement des affaires inclusives qui encourage le développement des PME. La quatrième, le développement de l'accès au marché pour les PME afin de faciliter les PME de faire le commerce dans la région de l'APEC. Pendant ce temps, le conseiller du ministre des coopératives et des PME, Hassan Jauhari, a affirmé que les PME indonésiennes devraient également être en mesure de tirer parti des progrès de la technologie de l'information dans la coopération économique entre les pays de la région de l'APEC. PME peut facilement faire des affaires dans l'économie du pays dans la région de l'APEC. Actuellement, selon Hassan, comme cité compass.com, il y a les grandes possibilités pour les débutants de PME qui développent déjà des applications de technologie de l'information basées sur les téléphones cellulaires intelligents. Selon lui, le soutien est nécessité afin que les PME basées sur la technologie de l'information puissent développer, par exemple avec une vitesse accrue d'Internet, la réduction du coût de la location d'hébergement ou un service basé sur l'Internet comme lieu de stockage de données ou d'exécuter des applications dans le lieu centralisé et la facilité d'obtenir la protection des droits de propriété intellectuelle. Lors de la 42e réunion du groupe de travail des PME de l'APEC cette fois, les participants ont discuté entre autres que le plan stratégique de développement des PME de l'APEC 2017-2020 avec une vision pour faire devenir le groupe de travail des PME de l'APEC comme forum pour réaliser le développement inclusif et durable pour les PME et d'assurer la préparation des PME à faire face aux défis du 21e siècle. Chers amis, c'était la mise au point pour ce soir.
L'ambassade de l'Inde à Jakarta a organisé un forum d'affaires assisté par les hommes d'affaires de l'Inde et le ministre indonésien des Transports, M. Ignatius Jonan. Le ministre Jonan, comme envoyé spécial du président chargé de la coopération entre l'Indonésie et l'Inde, dans une session interactive du forum des affaires de l'Inde tenu à Jakarta récemment, a invité les hommes d'affaires indiens à investir dans le domaine maritime dans ce pays, surtout dans la construction du port. Ceci est cohérent avec le programme de Nawacita du gouvernement qui vise à relier et à construire uniformément l'Indonésie. Jonan a déclaré que les investisseurs étrangers pouvaient avoir des actions de l'actionnariat du port jusqu'à 49%.
Seaport can be owned by foreigner for up to 49%. So you have to find.
Le port de mer peut être propre par l'étranger jusqu'à 49%. Donc, vous devez trouver le partenaire indonésien qui souhaite avoir entreprise conjointe avec vous jusqu'à 51%. Nous ne limitons pas l'origine de l'investisseur. Vous pouvez investir dans le domaine du port ou vous pouvez vendre la technologie, comme par exemple. Le ministre Jonan a expliqué qu'Alimantan, Sulawesi et Papouasie avaient une formidable opportunité d'investir. Il ne conseille pas les investisseurs étrangers à investir dans la construction de chemins de fer, car elle nécessite des grands fonds. Il a expliqué que l'Indonésie était un très bon pays à investir parce qu'elle a un climat politique et sécuritaire favorable. Le forum a été ouvert par l'ambassadeur de l'Inde à l'Indonésie, Ningcha Lufum Muka Padaya. Dans la même occasion, l'ambassadeur espère que ce forum peut accroître les relations économiques et commerciales entre les deux pays. La ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a déclaré que la libération de 10 membres d'équipage de l'Indonésie qui ont été pris en otage par les groupes armés dans la région de la mer des Philippines pourrait être réussie grâce à la diplomatie. Cela a été déclaré par Mme Retno Marsudi au palais présidentiel à Bogor, Java West, le dimanche. Le président Joko Widodo a exprimé sa gratitude au gouvernement philippin pour la libération. Selon Mme Retno Marsudi, le gouvernement a ouvert toutes les options et les réseaux informels, y compris les réseaux formels pour libérer 10 citoyens indonésiens qui ont été pris en otage. Cela est dans un seul but, à savoir la sécurité des Indonésiens qui étaient en captivité des groupes armés. La coopération de l'industrie et de l'investissement d'acier entre l'Indonésie et le Japon continue d'être renforcée. L'un est fait par l'intermédiaire du 62e Forum du dialogue d'acier indonésien-Japon 2016 tenu à Tokyo, le Japon. Il a été déclaré par le ministre indonésien de l'Industrie, M. Soleh Husin, à travers un communiqué de presse cité par Antara le dimanche. Il a affirmé que le forum de dialogue d'acier Indonésie-Japon était un forum de consultation entre l'Association indonésienne de l'industrie sidérurgique, accompagné par le ministère indonésien de l'industrie et l'Association japonaise de l'industrie sidérurgique, accompagné par le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie du Japon. Le gouvernement indonésien a déclaré le ministre Saleh a insisté plusieurs fois le Japon et d'autres pays à être plus actifs pour renforcer la structure industrielle dans le pays. Selon lui, cette réunion annuelle est faite par le gouvernement indonésien à travers le ministère de l'Industrie et le gouvernement du Japon par intermédiaire du ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie. Le premier dialogue a eu lieu en 2011 à Jakarta. La délégation indonésienne à ce forum a été dirigée par le directeur de l'industrie du métal, du directorat général de métal, machines, d'équipement de transport et électronique du ministère de l'Industrie, M. Budi Irmawan, tandis que la délégation japonaise a été dirigée par le directeur de l'industrie sidérurgique du ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie du Japon, Takanari Yamashita. Vous écoutez le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'ambassade d'Indonésie à Dakar a affiché une variété de produits culturels et a promu les destinations touristiques locales de l'Indonésie à l'événement du mois culturel mondial à Dakar au Sénégal. Lors d'un événement organisé par l'École internationale de Dakar, l'ambassade d'Indonésie à Dakar a présenté les produits d'artisanat comme le tissage, le batik, distribuer des brochures sur le voyage et le tourisme, montre des vidéos indonésiens et sert des plats indonésiens typiques tels que le riz frit, saté et la glace au lait de coco. À cet événement, le pavillon indonésien a présenté le jeu de gamelan et a donné l'occasion aux visiteurs de jouer le gamelan. En outre, les citoyens indonésiens qui vivent à Dakar portent des costumes traditionnels et suivent la parade des vêtements traditionnels. L'ambassadeur d'Indonésie à Dakar, M. Mansour Pangeran, a déclaré à Dakar que le mois culturel mondial qui a été assisté par des milliers de visiteurs était un lieu d'exposition et de promotion culturelle à la communauté du Sénégal et expatriée à Dakar. L'ambassade d'Indonésie à Dakar, qui ont suivi l'événement pour 4 fois consécutifs depuis 2013, a été élu le meilleur stand préféré et espère d'attirer les citoyens du Sénégal et d'autres ressortissants étrangers à venir en Indonésie par l'intermédiaire de cet événement. Le maire de Bandung, Java West, M. Ridwan Kamil, a reçu le prix en tant que chef de la zone environnementale de PT Pertamina. La vision et la mission continueront à appliquer pour que Bandung soit verte, c'est ce qu'a déclaré par Ridwan Kamil après avoir reçu le prix à Bandung le samedi. PT Pertamina, en tant que la compagnie nationale d'énergie, est constamment engagée à mener ses activités en synergie avec l'environnement, telles que l'innovation des produits de carburant plus respectueux de l'environnement et la réalisation du programme de Corporate Social Responsibility et le développement de l'environnement. Selon Pertamina, Ridwan Kamil possède une vision et la consistance dans la campagne de l'environnement, ainsi que jouer le rôle actif dans la diffusion des activités environnementales. Auparavant, il a soutenu un programme de PT Pertamina dans la région de l'ouest de Java, à savoir Pertamax Bersih Bersih, qui est toujours fait à Bandung. Au moins 45 pays assisteront au sommet international du leader islamique modéré, ou ISOMIL, qui aura lieu à Jakarta le 9 au 11 mai 2016. Cela a été déclaré par l'initiateur de ISOMIL, le vice-président du Nahdlatul Ulama, M. Maksum Mahfouz, à Jakarta samedi. Isomil est la suite du sommet extraordinaire de l'Organisation de coopération islamique, ou OCI, à Jakarta récemment. Selon Maksum Mahfud, OCI est le chef d'État ou le chef de gouvernement. Cependant, Isomil est l'organisation des dirigeants ou les dirigeants islamiques modérés. Isomil sera ouverte par le président Joko Widodo à Jakarta Convention Center le lundi 9 mai et fermée par le vice-président Yusuf Kalla au même endroit le lendemain. Chers amis, c'était le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis. Merci à vous d'écouter notre antenne, La Voix de l'Indonésie. Dans l'édition du magazine culturel aujourd'hui, nous vous invitons à visiter l'île de Rat. Alors, soyez toujours avec nous, La Voix de l'Indonésie, le service international de RRI. Outre les zones courtes, vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voi.co.id. Chers auditeurs, si vous visitez la ville de Bengkulu, il est incomplet si vous ne profitez pas de la belle plage de sable blanc de l'île Tikus ou l'île de Rat. Cette île est un petit atoll situé dans l'ouest de la ville de Bengkulu, à une distance d'environ 10 km du centre-ville. L'île de Rat est entourée par des coraux et un riche de ressources biologiques qui est décidé comme forêt touristique. Les potentiels de faune sont sous la forme des écosystèmes coralliens et les biotes marins. À la nuit, la mer avec le sable blanc devient l'habitat des tortues écailleuses et vertes qui grimpent à la terre pour pondre leurs œufs. Dans la zone marine, il y a des lieux sûrs pour les activités de plongée sur le fond marin avec des eaux claires et les beaux récifs coralliens. C'est un site touristique marin intéressant à visiter. Chers auditeurs, l'île de Rat est également très appropriée à être visitée par les touristes qui aiment la pêche parce que dans les environs, il y a des roses comme l'habitat de diverses espèces de poissons comme carangue, le merou, le colossoma macropomu, le makuro et le vivano sont prêts à être pêchés et consommés immédiatement sur cette île. En outre, ces roches font cette île comme paradis pour les amateurs de plongée en apnée et aussi pour les pêcheurs. Pendant son séjour sur l'île de Rat, vous pouvez nager et plonger pour voir le récif corallien et le biote marin. Sergita, pour se rendre à ce site touristique, les touristes peuvent louer un bateau de pêche. Un voyage peut être pris pendant 30 minutes de la plage de Tapak Padri en ville de Bengkulu. Les pêcheurs locaux sont également prêts à devenir un guide pour les touristes visitant l'île de Rat avec le prix de paquet de 150 000 rupiah par personne, y compris le transport, le guide, la nourriture et des boissons, des photographies sous-marines et l'équipement de plongée en apnée. Sergitor, l'île est également connue comme l'île de la tour car il y a une tour comme une direction pour les navires qui passent là-bas. Il y a seulement une maison habitée par de l'officier de la tour. Il n'y a pas de chalet et d'auberge sur l'île. Donc, si vous voulez profiter de la beauté de l'île pendant plus longtemps, vous êtes autorisé à rester à la maison de l'officier de la tour ou à porter une tente. et il est conseillé d'apporter sa propre nourriture et boisson parce que l'île de Ra est encore originaire, pas de magasin ou des étals. De sorte que pendant son séjour sur cette île, vous vous sentirez vraiment aventurier, loin de l'agitation de la vie dans la ville. Sexami, c'est le magazine culturel pour ce soir avec pour titre L'île de Ra. Demain, nous nous retrouverons avec un sujet plus intéressant encore. À demain!
Comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Chers amis, bonsoir. Nous nous rencontrons de nouveau dans la rubrique Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et qui vous conduit à dialoguer dans la langue indonésienne. Ce soir, notre sujet est Binatu, ou en français, blanchisserie. Premièrement, je vais vous introduire le vocabulaire et les expressions reliant au sujet d'aujourd'hui. Je vais prononcer deux fois et vous répéter après moi. Binatu, binatu, en français, blanchisserie. Selamat pagi. Selamat pagi, en français, bonjour. Bantu, bantu, en français, aider. Mencuci, mencuci, en français, laver. Kemeja, en français, chemise. Celana panjang, en français, pantalon. Bisa, bisa. En français, pouvez. Pakaian, pakaian, en français, prêt à porter. Disetrika, disetrika, en français, repasser. Mengambil, mengambil, en français, prendre. Nanti malam, en français, ce soir. Bayar, bayar. En français, payer. Sekarang, sekarang. En français, maintenant. Ensuite, je vais donner un exemple d'une conversation intitulée Binatu ou dans la langue française, la blanchisserie. Comme d'habitude, je vais prononcer phrase par phrase deux fois lentement. Vous pouvez suivre après moi. Cette conversation est entre employés de blanchisserie A et John B. A. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. En français, bonjour, monsieur. Ada yang bisa saya bantu? Ada yang bisa saya bantu? En français, comment puis-je vous aider? B. Saya ingin mencuci kemeja dan celana panjang ini. Saya ingin mencuci kemeja dan celana panjang ini. En français, je veux laver cette chemise et ce pantalon. B. Apakah bisa? Apakah bisa? En français, est-ce que c'est possible? A. Tentu saja bisa. Tentu saja bisa. En français, bien sûr. A. Apakah pakaian-pakaian Anda perlu disetrika? Apakah pakaian-pakaian Anda perlu disetrika? En français, est-ce que vos vêtements doivent être repassés? B. Iya, tolong juga disetrika. Iya, tolong juga disetrika. En français, oui, s'il vous plaît. A. Kapan Anda akan mengambilnya? Kapan Anda akan mengambilnya? En français, Quand allez-vous les prendre? B. Saya akan mengambilnya nanti malam. Saya akan mengambilnya nanti malam. En français, je vais les prendre ce soir. B. Apakah saya harus bayar sekarang? Apakah saya harus bayar sekarang? En français, dois-je payer maintenant? A. Tidak, Pak. Tidak, Pak. En français, non, monsieur. A. Anda bisa membayar pada waktu mengambil. Anda bisa membayar pada waktu mengambil. En français, vous pouvez payer quand vous prenez. Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'indonésien pour ce soir. Merci de votre fidélité. Au revoir.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Chers amis de la voix d'Indonésie, dans quatre coins du monde, bonsoir. Voici le magazine musical. Comme chaque lundi, nous vous présentons la musique de rythme de Kroncong. On dit que cette musique est née à l'arrivée de Portugal en Indonésie au 15e siècle. Chers amis, vous pouvez écouter notre émission non seulement par les ondes courtes sur la fréquence de 9525 kHz, mais aussi par l'audio streaming www.voi.co.id ou bien par l'application de RRI Play sur votre gazette ou portable. Donc, pour l'ouverture de notre rencontre, allez écouter la chanson de Kroncong intitulée Telomoyo, composée par Kusbini, chantée par Sundari Sukocho. Bonne écoute. Chers amis, c'était la première chanson intitulée Telmoyo, chantée par Sundari Sukocho. Kusbini est la légende du monde musical indonésien. Il est connu aux années 30-50 avec ses collègues Annie Landau, Gesang, Abdullah, Miss Rukia, etc. L'une des chansons de Kusbini, intitulée Padamu Negeri, était une chanson patriotique qui est devenue la chanson nationale. Elle est simple, la parole est lyrique, facile à chanter. Mais dans le genre de Kroncong, le nom de Kusbini ne tient pas un rôle comme chanteur. Mais pour composer les chansons, il a du talent, surtout le rythme de Kroncong. Ses œuvres comme Moretzko, Prubakala, Sarinande sont très populaires. Bon, maintenant, allez encore écouter la chanson de Kroncong intitulée Moretzko, composée par Kusbini. Bonne écoute.
Thank you.
Merci d'être fidèle à notre antenne, la voix d'Irnizi, diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous avez écouté tout à l'heure des chansons indonésiennes. Ainsi se termine la mission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 2011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.